Dans la ville, les mots au mur, les plaques de rue, les tags, les affiches, dans les boutiques, les promos, les marques, les enseignes. Chez Marcel, Madame Moustache, au bon plaisir, la ville comme un livre ouvert, la ville bruisse, la ville murmure, la ville parle. De vive voix.
Pascal Paradou.
Il est à Paris, dans le cœur du quartier historique du Marais, un musée qui raconte l'histoire de la capitale au travers des siècles. Et pendant longtemps, la porte franchie, vous arriviez dans la salle des enseignes avec le sentiment furtif de vivre au 18e ou au 19e siècle. Marie-Laure Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable de cette fameuse collection d'enseignes, qui est une collection assez unique et qui est présenté comme si le spectateur rentrait pénétré dans une rue de Paris.
Oui, c'est une des grandes originalités du musée Carnavalet. C'est d'avoir deux galeries dédiées aux enseignes. C'est le seul exemple qu'on connaisse, puisqu'il y a deux autres collections en France, le MUCEM et le musée Le Sec de Tournelles, qui ont aussi des collections importantes. Mais Carnavalet a cette spécificité de présenter en situation
les fameuses enseignes. Oui. Alors actuellement le musée est fermé car il est en rénovation, mais est-ce que cette salle des enseignes sera identique en 2020, donc au printemps 2020 pour la réouverture?
Alors elles ne seront pas tout à fait pareilles, mais nous souhaitons mettre en valeur la première salle qui a été ouverte en 1914, en remettant, avec la configuration actuelle, parce que tout n'est pas exactement pareil, mais en remettant le plus possible les enseignes qui étaient présentées dans cette salle en 1914. C'était un événement parisien qui a été relayé par tous les journaux de l'époque. Et voilà, nous essaierons de mettre en valeur ces enseignes telles qu'elles étaient en 1914.
Donc on pourra se promener dans le musée comme un visiteur de 1914 ou presque.
Oui.
En attendant, vous lancez un appel aux dons pour restaurer 20 de ces enseignes. Cela veut dire que sans cela, vous ne pouvez pas raccrocher ces 20 enseignes. Elles sont en très très mauvais état.
Alors ces enseignes, elles étaient dans la rue. Elles étaient au-dessus des boutiques. Elles étaient donc forcément... Elles ont subi les intempéries, la pluie, le vent, la neige, la chaleur. Elles sont dans des matériaux qui, comme le métal, comme le bois, qui forcément vieillissent plus ou moins bien avec le temps. Et donc cette collection avait besoin d'être entièrement restaurée. Et nous avons commencé une campagne avant aussi cette campagne de dons. Nous avons demandé à une douzaine de restaurateurs de travailler sur cette collection. Mais c'est vrai que nous, par cette campagne, nous voulons essayer d'attirer un autre public, un public de jeunes qui ne connaissent pas le musée et qui découvre qu'il y a d'autres choses dans un musée que des sculptures ou des peintures.
Donc s'il y a cet appel au don, c'est parce qu'il vous manque de l'argent, à peu près 80 000 euros, c'est
oui.
ça hein c'est le carnavaléton, oui. comme
oui.
il y a le téléthon. Mais
c'est
aussi pour impliquer finalement un public à se rendre compte qu'il y a là quelque chose du patrimoine.
Oui, exactement. Que la rue, en fait, est un patrimoine, et un patrimoine que tout le monde peut connaître. C'est pas comme un musée, tout le monde ne va pas forcément dans un musée ou dans un hôtel particulier. Dans la rue, tout le monde y passe. Donc tout le monde peut s'approprier ce patrimoine, des plaques de rue, des enseignes, des lanternes, voilà. Donc ça paraît un élément important.
Marie-Laure Deschamps, vous êtes venue aujourd'hui dans De Vive Voix avec Anne-Sophie Aguilar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre et vous préparez justement un bouquin sur les enseignes. Car en fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de choses écrites. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est par mépris? Par indifférence? Pourquoi les historiens se détournent des enseignes?
Mais c'est l'une des premières questions que nous nous sommes posées avec Éléonore Chaline, qui est la co-directrice de cet ouvrage qui paraîtra chez Citadel et Masneau. Parce que nous nous sommes intéressés à la question en mai 2016, assez précisément, puisqu'on a la date sur un cahier, en se disant qu'on aimerait travailler ensemble, elle est historienne de la photographie, et puis on réfléchissait à des objets qui n'avaient pas forcément été envisagés. par l'histoire de l'art, par les études visuelles, et on a pensé à l'enseigne qu'elle croise beaucoup en photographie, puisque c'est un motif qui a beaucoup intéressé les photographes de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Et on a constaté assez vite qu'effectivement, il y avait assez peu de littérature sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment en fait, assez favorable à l'histoire de l'enseigne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça correspond aussi, ça aboutit aussi à la création de la salle des enseignes du musée Carnavalet en 1914. Puis ensuite, tout le monde s'en est un peu détourné parce que les enseignes, on pourra en reparler, mais elles ont toujours été relativement mal aimées du fait de leur destination commerciale. Et ce qui a pu apparaître, c'était plus les enseignes remarquables, anecdotiques, pittoresques, à la faveur d'expositions au cours du XXe siècle, mais c'est à peu près tout.
Pourtant, Victor Hugo parlait de littérature des murs à partir des enseignes.
Oui, c'est cette littérature de la pierre aussi qu'évoque John Grant Carteret, qui est un des premiers historiens de l'enseigne, qui a publié un livre sur les enseignes commerciales, à Lyon en 1902. Et oui, il écrit cette phrase célèbre, « Là où il n'y a pas d'église, je regarde les enseignes », parce que c'est très important pour lui, et pas que pour lui, mais pour la génération aussi à laquelle il appartient, la génération romantique, cette génération de 1830, qui est très sensible en fait à ce langage populaire qui s'exprime à travers les enseignes et qui dit beaucoup et de la vie sociale et économique et de la ville.
Au bœuf normand, le chat noir, à la perruque à marteau, au nègre, à la bonne bouteille. Histoire de ces enseignes tout de suite après avoir écouté Tamayo et Roca, un mélange de salsa et de rap.
¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tu tiempo, tu bienestar? Vivir la vida como quieres, a tu antojo y en libertad. Para tener tu casa, tu carro, tu ropa, la moda y tu sofá. Dime cuánto te vale eso, dime cuánto te va a gastar.
Hey yo, en bas du bloc, la bique ravénère, même les jours fériés. Entre Yankee, Schlag, la bague rôde autour du terrier. Le bend se réveille avec une dalle de contrarié. Un nouveau jour, un nouveau billet, soupire le guerrier. La nuit, on descend tous au Paname, on laisse derrière tous les drames. On va se jailler dans les clubs entre champagne et mesdames. Sa vie d'apparence dans un monde où tout est mis à la vente. L'amour à 60, la pipe, ça te chante.
Al otro lado del planeta,
¿cómo?
Esclavos modernos trabajan.
Faut mettre les mains dans la masse pour obtenir un bon pain. Va falloir se salir encore après, on prend un bon bain.
Día y noche fabricando,
sí.
Lo que aquí tú estás comprando.
Et rien contre, mais qu'on travaille comme prisonnier d'un salaire. Pour mettre des pères, les mêmes qui nous mettent en galère.
Oye, Tamayo,
dilo, Roca.
Oye, la cosa está muy dura.
Ah, que sí, que
pago la renta, la factura, el gas,
ajá,
el agua.
¿Cómo?
Y no me queda ni pa' mi rumba, oye.
No, papá.
¿Cómo así?
Ah. Dime cuál es tu precio, cuánto vales, mi hermano.
Me mato camellando y no me sobra para nada. Pero yo salgo pa' mi rumba, nos vemos mañana. Ah, bueno.
We'll be right back.
El Precio, extrait du nouvel album de Tamayo et Roca, album désigné comme talent RFI pour se promener en rythme dans les rues de Paris et dans les salles du musée Carnavalet, car cette émission est consacrée aujourd'hui aux enseignes de la ville de Paris, qu'il s'agit de rénover, du moins les enseignes historiques que l'on trouve dans ce musée, ce pourquoi d'ailleurs un appel aux dons a été lancé. Anne-Sophie Aguilar, enseigne insigne, il y a un petit côté décoratif dans le mot même d'enseigne. Est-ce qu'on peut considérer les enseignes comme ceux qui décorent la ville?
Oui, alors les enseignes, comme je disais, ont toujours été décriées. On considère plutôt qu'elles détériorent le paysage urbain, pour tout dire. C'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, par exemple, c'est surprenant de voir à quel point elles sont retirées des vues d'architecture, des gravures. Mais oui, c'est leur rôle premier. C'est pour ça qu'elles gênent, d'ailleurs. C'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus ou moins toujours eu. Le terme, comme vous le disiez, enseigne, est très proche d'un signe, parce que c'est la même racine. Ça vient du latin insignum, en fait, qui fait signe, et c'est au sens large toute marque distinctive, en fait, qui permet de désigner certaines activités.
Quand apparaissent-elles dans l'espace public? Je crois que la plus ancienne du musée Carnavalet, mais là je parle sous le contrôle de Marie-Laure Deschamps, c'est le XVIe siècle.
Oui, exactement.
XVIe siècle. Une enseigne qui désigne quoi?
Alors, c'est l'enseigne de l'arbre de Jessé, qui était une enseigne de maison, car il n'y avait pas que des enseignes commerciales, il y avait aussi des enseignes de maison. Et ce poteau cornier, comme on l'appelle, qui représente toute l'arbre de Jessé, était à l'angle d'une rue qui donne sur la rue Saint-Denis et qui faisait près de 10 mètres de hauteur.
Un effet très, 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 très visible. Quelle est la caractéristique d'une enseigne? C'est finalement l'association d'un visuel et d'un nom, d'un titre. Par exemple, au bœuf normand, il y a le titre et il y a aussi le bœuf qui est représenté.
Alors oui, c'est intéressant comme question, parce que ça a beaucoup évolué au cours du temps, c'est-à-dire que on se préoccupe beaucoup plus de la lisibilité des enseignes, évidemment, à partir du 19e siècle, où il y a l'alphabétisation qui joue son rôle. Auparavant, ça pouvait être... Alors, l'enseigne la plus basique, la plus simple, qui n'est pas au musée Carnavalet, par exemple, mais qui existe encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'enseigne parlante. Ça va être un objet qui est produit par le commerçant et qu'il va mettre sous vitrine, enfin qu'il va montrer, voire accrocher quelque part sur sa façade. Et ensuite, on a toute une déclinaison. En fait, il y a tout type d'enseignes, certaines qui vont articuler lettres et images, effectivement, d'autres où ce sera uniquement des lettres, ce sera la raison sociale, en fait, qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de grandes enseignes, etc.
Mais ça tardivement, parce que, comme vous le disiez, au XVIIIe siècle, le peuple est analphabète.
Oui.
Donc, il ne peut pas lire ce qui est écrit.
Oui, on leur met sous les yeux plutôt des images, et c'est aussi l'époque de ce qu'on appelle les enseignes rébus, les enseignes calembourdières, qui font appel justement à l'œil du chaland, et qui vont montrer, ce sera par exemple les commerces qui s'appellent à la bonne femme, et qui vont présenter une femme sans tête, voilà, qui vont jouer là-dessus, ou soit de véritables rébus, en fait, avec plusieurs images associées. Donc oui, il y a un impératif de visibilité, c'est ce qui crée le problème aussi, c'est que les enseignes, on veut qu'elles soient visibles, elles s'étendent dans l'espace urbain, et dans les rues étroites des 17e et 18e siècles, on regrette qu'elles prennent trop de place, surtout les enseignes en saillie, qui débordent sur la chaussée, qui présentent des risques en termes de sécurité, qui compliquent la voirie, etc. Donc c'est parce qu'elles sont trop visibles, elles sont trop présentes.
Concevoir une enseigne, quand même, c'est avoir l'art du titre. Hein. C'est un peu la communication d'avant Twitter. Alors, il y a, en préparant cette émission, il y a une enseigne sur laquelle vous m'avez un peu appâté, mais je ne sais rien de cette enseigne, c'est « La truie qui file ». Quelle est cette histoire de l'enseigne « La truie qui file » ? Anne-Sophie Aguilar.
Oui. Mais cette enseigne, elle est particulièrement intéressante, je trouve, parce que elle montre à quel point les enseignes s'inscrivent dans un contexte oral. La truie qui file, c'est un type d'enseigne qu'on trouve dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris. On trouve à la fois donc des enseignes commerciales, des enseignes de maison aussi, qui représentent une truie qui file. Ça représente tout simplement une truie qui tient sur une quenouille, souvent. Et ça date, on trouve cette iconographie dès le Moyen-Âge, et personne ne sait exactement d'où vient cette iconographie, parce que certains disent que c'est lié à un charlatan du 15e siècle, à un certain Grillet-Soulard qui aurait exhibé une truie savante sur la place de Grève à Paris. D'autres pensent que ça vient du bestiaire celte, en fait, du bestiaire symbolique, que c'est un symbole druidique, parce qu'on trouve beaucoup de truies qui filent en Bretagne. Et ça montre à quel point ces enseignes, en fait, parfois, on perd même l'origine de leur création. Mais les gens y restent attachés, parce que la truie qui file, ça restait au cours des siècles un symbole important. C'est des enseignes ensuite qui ont été adoptées portés par les charcutiers, les bouchers, et qui, quelque part, parlent aux gens sans qu'ils sachent précisément pourquoi.
Donc la truquifile, c'est forcément un charcutier ou un boucher. La grande enseigne des époques, vous l'avez dit, c'est le 19e siècle, et on pense bien sûr aux célèbres affiches de Toulouse-Lautrec. Il y a actuellement une grande expo au Grand Palais de Lautrec, et c'est l'époque du chat noir, et c'est Marie-Laure Deschamps... la Joconde de cette salle des enseignes, le chat noir, non ?
Oui, effectivement, l'enseigne du chat noir, c'est un peu notre bébé, enfin notre chérie dans la salle des enseignes, bien qu'elle ne soit pas présentée dans la salle des enseignes de 1914. Et cette enseigne, elle a été dessinée par l'artiste Villette, et elle a été présentée, alors Anne-Sophie pourra compléter mon propos, elle a été présentée dans un concours d'enseignes en 1902 organisé par la ville de Paris à un moment où on voulait relancer un petit peu les enseignes, justement, de en faire un objet contemporain, que ça ne soit pas uniquement des objets du 18e ou du 17e, mais que les créateurs s'emparent de cet objet. Et voilà, je vais laisser Anne-Sophie compléter peut-être un petit peu là-dessus.
C'est en tout cas le moment où on a envie de faire des enseignes artistiques.
Artistiques,
c'est-à-dire
exactement.
Que ce ne soit pas juste le cochon, la truie, voilà. Le bœuf, etc., etc., mais que ça appelle un petit peu plus l'imagination.
Oui.
Oui, exactement, puisqu'en fait, ce qu'on reproche aux enseignes, c'est leur caractère populaire. C'est encore le cas aujourd'hui. Les gens, en général, n'aiment pas les enseignes contemporaines. Et là, le but, c'était donc de trouver un peu, de faire renaître une enseigne artistique. À cette époque-là, on fait appel aussi à des exemples célèbres. Des grands artistes ont réalisé des enseignes, enfin, de façon tout à fait marginale dans leur production, mais c'est le cas de Watteau, par exemple, de Chardin. De Géricault aussi, qui a fait une très belle enseigne de Maréchal Ferrand. Et donc, ça s'inscrit aussi dans cet état d'esprit de l'époque qui réfléchit beaucoup à l'art dans la rue, la manière d'embellir, en fait, le cadre de vie et aussi d'éduquer la foule, puisque l'enseigne est conçue comme un appel direct à la foule. Et l'enseigne de Villette est particulièrement réussie, le chat noir, parce que Villette, en affichiste, a vraiment réfléchi aux spécificités de l'enseigne, qui est un objet, contrairement à l'affiche, en trois dimensions. Et d'ailleurs, il réalise cette enseigne en saillie parce que l'enseigne en saillie, l'enseigne découpée, elle permet de jouer avec la lumière de la rue. Et ça fascinait notamment Apollinaire, ce jeu avec la lumière, l'éclairage urbain et la lumière de la rue.
Le chat noir, chez Bruant, les Folies Bergères, le Moulin Rouge.
Je l'aime d'amour vrai, Lautrec. Mais devant sa peinture, je crève de jalousie.
Oh, jalousie d'artiste, jalousie triste.
Tu es sûr de m'aimer? Tu es vraiment sûr?
Non. J'aime ta peinture.
Sincèrement, je préférais quand tu dessinais des chevaux.
C'est beau! Bravo le Nabo!
Le cancan!
Toulouse-Lautrec, inspirant quelques enseignes que l'on trouve au musée Carnavalet. Et vous le disiez, Anne-Sophie Aguilar, il y a aussi d'autres artistes qui se sont intéressés à faire des tableaux d'enseignes avant que finalement elles disparaissent, parce que le XXe siècle, c'est la mort des enseignes.
C'est la mort des enseignes telles qu'on les a connues au 19e. Et encore là, je trouve qu'il y a un retour à l'époque contemporaine. On peut suivre sur Instagram et des amateurs d'enseignes qui enregistrent les enseignes qu'ils voient dans la rue, mais aussi des peintres d'enseignes, qui est un métier qui avait, oui, plus ou moins, enfin, décliné oui et non, parce que si vous regardez alors plus largement le décor des boutiques aujourd'hui, vous regarderez les boulangeries qu'il y a par exemple autour de chez vous. Il y a encore beaucoup d'images associées aux enseignes. Mais il est vrai qu'en fait, ce qu'on appelle, enfin, l'enseigne peinte, le tableau d'enseigne, qui a connu une grande vogue au début du 19e siècle, sous la Restauration précisément, disparaît au cours du 20e siècle, ou plutôt est dissous. Il y a une dilution dans tout l'arsenal publicitaire, les affiches, les publicités dans les journaux. C'est l'ère du puffisme.
Du
puffisme.
C'est quoi le puffisme?
Le puffisme, c'est l'outrance publicitaire, en fait. C'était le terme qu'utilisaient les contemporains. Et voilà, et l'enseigne là-dedans a du mal à trouver sa place. Bah, ça devient, oui, ça devient plus précisément une forme de slogan, un logo, et en fait elle va basculer, la création d'enseigne va basculer davantage vers le graphisme, le design industriel, et va y avoir surtout la concurrence des enseignes lumineuses qui vont reléguer un peu dans le lointain les enseignes peintes qui faisaient la joie du flâneur du 19e siècle.
Alors aujourd'hui, dans les 20 enseignes pour lesquelles vous appelez à un don, il y a le bœuf normand, il y a la perruque à marteau, c'est pour un perruquier, il y a aussi l'enseigne Au Nègre, et c'est une enseigne de bijoutier. Quel est le lien, Marie-Laure Deschamps, entre cette enseigne d'un homme noir qui tient une horloge? Quel est le rapport entre la bijouterie et l'homme noir?
J'avoue ne pas le savoir. Je ne connais pas l'histoire de toutes les enseignes et pourquoi on a pris tel ou tel. Alors, en ce qui concerne ici, il y avait un modèle au XVIIIe siècle, ce qu'on appelait les pendules aux nègres, effectivement, où on représentait les bronziers, représentaient les fabriquaient des pendules. Et c'est effectivement un personnage qui était souvent représenté pour les pendules. Et ça vient sans doute de là, qu'un horloger ait choisi une enseigne.
Avec une imagerie comme quoi le serviteur est forcément noir.
Oui.
Et c'est lui qui apporte les choses au maître.
Ça s'est beaucoup fait au XVIIIe siècle. Ouais.
Alors, il y a une autre enseigne qui a fait polémique il y a 2-3 ans déjà. C'est le Nègre Joyeux, car c'est une enseigne qui était encore accrochée dans les rues de Paris, dans le 5e arrondissement, que finalement la mairie a décidé de ne pas raccrocher pendant qu'elle était en restauration chez vous. Et finalement, d'après les dernières informations, c'est vous qui allez hériter de cette enseigne. Est-ce que vous confirmez, Marie-Laure Deschamps?
Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée. C'est-à-dire que cette enseigne, effectivement, était cette enseigne qui est Place Mouffetard, a été donnée au musée Carnavalet, mais nous l'avions laissée in situ. Et là-dessus, il y a périodiquement des actes de vandalisme. Et la dernière fois que c'est arrivé, nous avons déposé cette enseigne. Le musée, la première mission du musée, c'est de la faire restaurer. Et nous laissons aux historiens le soin de travailler sur l'interprétation de cette image, parce que c'est assez complexe.
Et de l'utilisation du mot nègre et aussi à cette époque-là et aujourd'hui.
Il y a tout un travail de médiation qui est en cours sur cette thématique. Et la décision de la présenter ou ne pas la présenter ne dépend pas du musée, mais dépend de la municipalité parisienne et du comité des historiens qui ont travaillé sur la question.
En tout cas, on voit bien que l'enseigne est un sismographe, c'est-à-dire ce qui était accepté, toléré, validé au XIXe siècle, aujourd'hui est impossible à lire dans les rues de la ville. Le mot nègre aujourd'hui dans les rues de Paris, c'est impensable.
Oui, tout à fait.
Oui, l'enseigne a en général, de toute façon, un pouvoir politique aussi. Enfin, il y a une dimension politique très forte et, comme le montrent les vagues d'iconoclasme successifs, d'ailleurs, du 19e siècle, contre les enseignes et pas que, d'ailleurs, contre toutes les inscriptions, mais il y a eu plusieurs décrets révolutionnaires qui ordonnaient la destruction des enseignes avec des effigies royales. Et il y en avait beaucoup, des enseignes qui reprenaient le roi, des couronnes, etc. Et donc, avec parfois, à l'inverse, des reflux contre-révolutionnaires. Donc ça, c'est fréquent.
Des mots dans la ville, des mots dans le langage de tous les jours aussi. C'est comme toutes les semaines, le mercredi, la journée des enfants du mois en France et la journée de la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal.
Vous avez l'œil de quelqu'un qui prépare un mauvais coup.
Je dirais même que j'ai l'œil de quelqu'un qui prépare un coup de Trafalgar. Mais qu'est-ce que Trafalgar et comment en est-on arrivé à cette locution? Eh bien Jean Pruvot nous dit tout dans quelques instants. Mais avant, on écoute les CM1 de Carole Rossignon à l'école Forest à Paris. C'est parti.
C'est un coup, mais enfin, c'est un faux coup. Ça veut dire qu'il voulait pas te faire mal, mais il l'a fait quand même pour qu'il se fasse punir à sa place.
C'est un coup, tu voulais pas lui donner, mais t'étais énervé contre lui, alors tu lui as donné un coup comme ça.
C'est pour moi un coup où au début tu voulais faire une blague, mais ça a mal tourné.
Trafalgar, ça me fait penser à bagarre.
Quelqu'un sans faire exprès a donné un coup à quelqu'un.
Pour moi, ça veut dire que t'as fait une blague, mais l'autre il a pas compris le sens de ta blague. En fait, ça veut dire qu'il y a un malentendu.
C'est comme si Trafalgar, c'était un grand voleur, mais très rusé. Un coup de Trafalgar, c'est un coup très rusé, très bien fait.
Le Trafalgar, c'est un coup de garde qui fait un coup à une personne parce qu'il n'a pas respecté une loi.
La
Alors Jean, on rigole pas avec le coup de Trafalgar. C'est un coup de bâton non, hein. Presque, ou une blague. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de ces CM1 donc?
Je trouve que déjà ils ont bien saisi que c'était un nom propre. Donc ça c'est quand même formidable. Ils ont compris que c'était quand même assez négatif aussi, que c'était quelque chose qui allait mal tourner. Là c'est le moins qu'on puisse
dire. Je crois
que
c'est le coup. Je crois que c'est l'idée
oui,
du
le
coup.
Oui, le coup. Ils ont bien compris que c'était COUP d'ailleurs. Hein. Alors l'idée de Bayard est pas non plus absurde, loin de là, parce que c'est quand même une bataille. Donc on a bien l'idée d'un combat. Et puis, alors un voleur très rusé. Mais oui, Trafalgar, on va y revenir, mais Nelson a été très rusé. Et c'est comme ça qu'en fait, on a perdu cette fameuse bataille.
Alors justement, d'où elle vient cette expression? Parce que là, ce qui nous intéresse dans l'expression, donc, c'est Trafalgar. Qu'est-ce que Trafalgar?
Alors Trafalgar, c'est un cap et qui se trouve au sud de l'Espagne, entre Cadix et Tarifa. Mmh. Et donc là, on est en octobre 1805, donc on a fait nos calculs, c'est Napoléon, c'est l'empereur, et il s'agit de combattre évidemment les Anglais, et c'est une coalition franco-espagnole, il y a 33 navires, donc 18 pour la France et 15 pour l'Espagne, qui vont affronter la flotte anglaise, qui est dirigée, pilotée par Nelson. Et le rêve de Napoléon, quand il sera après en face Boulogne-sur-Mer, c'est de conquérir l'Angleterre. Mais ça se fera jamais. Et Trafalgar, d'ailleurs, y est pour quelque chose. Et alors, Nelson, très habile, qui a pourtant moins de bateaux que cette coalition français-espagnole, va avoir l'idée de mettre la main sur les bateaux qui sont en tête de cette espèce de file indienne qui traverse la mer, et sur ceux qui sont au fond. Et donc, ils sont tous surpris, les Français et les Espagnols. Et rapidement, ça va être une déroute, un désastre. On va perdre 21 vaisseaux. Et donc, c'est vraiment une catastrophe. Alors, une catastrophe pour nous. Le coup de Trafalgar, comme il y a le coup de Jarnac, comme il y a comme ça des coups et un coup bas presque. Et évidemment, pour Nelson, une victoire formidable. Mais
une victoire qui a donné quand même un nom à une place très fameuse en Angleterre, Trafalgar Square.
Oui, c'est ça.
On dit que c'est un sale tour, on dit que c'est la Bérésina, que c'est un coup de couteau dans le dos ou un coup de poignard. En tout cas, on a bien compris cette connotation très péjorative du sale coup, du coup tordu en fait. Hein.
C'est un coup tordu, c'est-à-dire c'est un coup inattendu. C'est le propre des génies militaires. Nelson, il avait perdu un œil, perdu un bras, il a perdu la vie d'ailleurs à Trafalgar. Mais enfin, ça a été un grand capitaine. Hein. Il a donné finalement la victoire à l'Angleterre et empêchait finalement Napoléon de le conquérir ensuite parce qu'il n'y avait plus de vaisseaux, ils étaient déjà démolis. Alors quand il va essayer de Boulogne-sur-Mer d'aller en Angleterre, il aura que de malheureuses péniches. Et donc il a compris qu'il n'y arriverait pas, il a abandonné.
Donc il y a cette idée de stratégie effectivement pour parvenir à ses fins. Mais c'est vrai que persiste cette idée du coup en biais, d'un coup presque déloyal, pernicieux quoi.
Brutal et inattendu. Un peu vicieux, oui, c'est vrai. Nelson a été assez vicieux pour emporter et la queue de cette file de bateaux et la tête.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? On a parlé donc du coup de Jarnac pour la petite histoire. Qu'est-ce que c'est que Jarnac?
C'est un coup d'épée particulier qui touche le mollet auquel on ne s'attend pas. Et donc là aussi, c'est un peu la même chose.
Ouais, ça vient d'un combat, d'un duel.
Voilà,
en fait.
Mais je pense que le coup de Trafalgar est encore plus fort.
Eh bien, mon cher Jean, point de coup entre nous, et c'est tant mieux. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver toute votre folle actualité sur votre site jeanpruvot.com. Merci d'avoir été aujourd'hui dans La Puce, une puce que les auditeurs peuvent retrouver sur le site de RFI Savoir. À très bientôt.
C'est un grand plaisir, merci.
Merci à vous deux. Alors, trouve-t-on ce mot de Trafalgar dans les enseignes de la ville de Paris ou sur les murs de Paris? Je suis pas bien sûr, parce qu'une défaite, c'est jamais salué.
Exactement. Je pense que peut-être en Angleterre, on peut en trouver, mais en France, ça m'étonne. Oui.
C'est plutôt Austerlitz.
Voilà.
Anne-Sophie Aguilar, merci. Merci à vous aussi, Marie-Laure Deschamps. Et rendez-vous donc en 2020 pour la réouverture du musée Carnavalet, la lecture de votre livre sur les enseignes, Anne-Sophie Aguilar. Et pour ceux qui veulent contribuer à rénover ce patrimoine des enseignes, il faut aller sur la page internet du musée ou alors sur le site dédié www.comeon.com et vous avez jusqu'au 17 novembre. De vive voix, Pascal Paradou, Véronique Durand, Julien Lingue, à demain.